Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mounde.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes lundi 17 août 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous faisons un nouveau point sur la situation sécuritaire dans le pays. Nous sommes avec trois invités. Serge Daniel, journaliste spécialiste des questions terroristes. Birama Fall, qui va nous rejoindre, journaliste éditorialiste. Et également André Bourgeot, chercheur et spécialiste du Sahel. Bonjour à vous, messieurs, et merci de nous accorder un peu de votre temps. Je suis Famous Sidibé, Peting Diara est à la mise en onde.
Studio Tamani.
Un responsable du groupe d'autodéfense Gatia évoque 15 morts pour les violences d'hier et aujourd'hui, dont un chef militaire du camp de la dans le camp de la CMA, de la coordination des mouvements armés de l'Azawad. La CMA a confirmé les combats, refusant donc de se prononcer sur un bilan dans l'immédiat. Les affrontements ont également été confirmés par une source de la mission de l'ONU au Mali. Les combats ont repris donc ce matin entre la CMA et la plateforme dans les alentours de Kidal. Les deux groupes armés se sont donc affrontés hier avant de marquer une trêve dans la nuit pour finalement recommencer donc aujourd'hui. Alors nous allons commencer avec Serge Daniel. Qu'est-ce qui explique ces violations du cessez-le-feu entre ces parties?
Alors il y a une observation à faire, c'est qu'au moment où nous sommes en train de parler, les groupes, pas de Gatia, mais de la plateforme, je dis le Gatia, c'est vrai que c'est l'une des forces principales de la plateforme, mais ils ne sont pas seuls, parce que vous avez
le MAA,
ça c'est très important pour pouvoir expliquer ce qui se passe, et des mouvements d'autodéfense. Au moment où nous parlons, la plateforme contrôle la localité d'Anéfis. La localité d'Anéfis est un verrou important entre Gao au sud et Kidal au nord. Donc, la première observation qu'on peut faire, c'est que c'est pour contrôler une localité qu'ils ont commencé à se battre. C'est vrai que le Gatia dit officiellement qu'il y a eu des arrangements sécuritaires au début qui n'ont pas été respectés par la CMA. La CMA dit exactement quelque chose, la même chose. Mais le véritable problème, c'est la lutte pour le contrôle de certaines localités stratégiques, malgré l'accord signé entre les autres. La deuxième observation que je voulais faire, et j'en aurais terminé pour le moment, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que la question est tribale. Vous voyez des tribus qui s'allient pour combattre d'autres tribus et pour une question de leadership dans le nord du Mali.
Est-ce que vous faites référence aux différentes tribus Touareg?
C'est évident, parce que l'erreur qui a été commise, je l'ai toujours dit au début de la crise, c'était de dire on s'est trompé sur les acteurs de la crise. On l'a voulu à un moment considérer que le mouvement national de libération de l'Azawad était un mouvement qui représentait toutes les tribus. C'était faux, c'était absolument faux. La question est tribale, et là, de ce point de vue, on voit sur le terrain des alliances tribales se nouer avec des intérêts assez particuliers pour le contrôle de certaines localités stratégiques. Si vous prenez par exemple, vous savez qu'actuellement nous sommes en période de crue, il pleut énormément dans le nord du Mali, il y a les Oueds qui sont pleins, on ne circule difficilement, c'est-à-dire les routes sont impraticables, et les routes les plus praticables, il faut pouvoir les contrôler pour faire passer de la marchandise, pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir faire passer des armes, les contrôler pour pouvoir exister, et ça me semble important.
Merci beaucoup Serge Daniel. Nous allons du côté de la France retrouver André Bourgeot. Bonjour André Bourgeot.
Oui, bonjour.
Alors, ça va, nous vous entendons. Alors aujourd'hui nous voyons une violation manifeste du cessez-le-feu. Qu'est-ce que cette violation peut bien vouloir dire?
Pardon, je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que cette violation
peut bien vouloir dire?
Non, c'est pas la première fois qu'il y a une rupture du cessez-le-feu. Je crois me souvenir qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, la MINUSMA avait déjà informé les autorités maliennes et la communauté internationale qu'il y avait une rupture du cessez-le-feu, sans dire qui avait rompu le cessez-le-feu. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il y a un tel antagonisme de nature sociale, cette fois-ci, entre le GATIA, c'est-à-dire les IMRAD et alliés, et puis la composition sociologique du mouvement national de libération de l'Azawad, et donc, par voie de conséquence, de la coordination des mouvements de l'Azawad, que les processus de réconciliation entre ces deux mouvements, à savoir la coordination et la plateforme, je l'imagine très très difficilement parce que les enjeux sont tout à fait opposés. Ensuite, il faut mentionner la chose suivante, c'est que au moment des accords d'Alger, et plus particulièrement après la prise de Menaka par le GATIA, prise de Menaka qui n'a pas du tout été acceptée par le mouvement national de libération de l'Azawad. Donc actuellement, on assiste pas simplement à une tribalisation du politique, parce que cette tribalisation, elle existe depuis qu'il y a ces rébellions armées, mais aussi à un problème, pas simplement de contrôle d'une ligne, mais de contrôle du territoire. Parce qu'il y a eu un accord tacite, implicite, qui consistait à dire toute la partie nord-est de Kidal sera sous le contrôle de la FEMA, et la partie sud-est sera sous le contrôle de la plateforme, et plus particulièrement du GATIA. Donc vous voyez, ça prend une dimension cette fois-ci territoriale, et ça repose le problème du contrôle d'un espace qui est le septentrion malien par différents groupes. Ça veut dire qu'actuellement, parler d'unité territoriale me paraît un abus de langage, parce que vous avez les salafistes et djihadistes qui interviennent quand ils veulent intervenir et qui contrôlent aussi un territoire. Vous avez tous les trafics de fraude illicite et plus particulièrement de la cocaïne qui génèrent une ethno-territorialisation du septentrion malien. Donc le problème me paraît d'une gravité extrême. Parce que maintenant, c'est des contrôles politiques et militaires sur des espaces, c'est pas simplement des espaces, c'est maintenant aussi des territoires au sens politique du terme.
D'accord. Merci beaucoup, André Bourgeot. Alors, Serge Daniel, est-ce que on peut dire, sans risque de se tromper, que ces violences, ces affrontements sont le résultat de la lenteur de la mise en œuvre de l'accord ?
Lenteur de la mise en œuvre de l'accord, non, je ne dirais pas cela. Mais le problème, c'est que même si il y a un chronogramme, c'est vrai que le chronogramme de l'application de l'accord n'est pas respecté. Mais je suis persuadé, je te l'ai dit et je ne continue pas à le dire, c'est évident qu'on ne peut pas régler le problème du nord du Mali avec cet accord seulement. Ce n'est pas possible. Vous avez des problèmes extraordinaires. Vous avez des gens, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en période de crue. Il pleut abondamment dans le Tilemtsi, dans le Tamanlasna, pour aller à Kidal, ce n'est pas possible, etc. Les gens ont besoin de contrôler des territoires. Ils ont besoin de contrôler des territoires. Ce qui manque à l'accord d'Alger, et ça c'est mon point de vue, c'est dans le chronogramme d'application de l'accord, une fois l'accord signé, il fallait penser, à mon avis, à continuer à discuter avec les différentes tribus. Je suis persuadé que vous ne pouvez pas parler du nord du Mali sans tenir compte des tribus, sans tenir compte des rapports à l'intérieur de ces tribus-là. C'est quelque chose de très important. Ils ont pris Anéfis aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé, on le sait désormais avec précision. Vous savez qu'au sein de la CEMA, vous avez les IFORAS, vous avez une branche du MAA, le mouvement arabe de l'Azawad, et ce qui est important aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les IFORAS n'ont pas combattu on pouvait le penser aux côtés du MAA. Et qu'on a insisté beaucoup sur le GATIA, mais je veux insister sur l'autre branche du MAA qui a combattu. Donc, si vous ne tenez pas compte de ces rapports tribal. Si vous ne contenez pas compte de la volonté de ces tribus d'exister sur le terrain, on ne s'en sortira pas. L'accord, ce qui s'est passé, ce n'est pas parce que l'accord, il y a une lenteur d'application, dans l'application de l'accord. C'est un signe, c'est un acte qui montre, qui prouve que nous sommes loin, très très loin d'avoir la paix dans le nord du Mali. Un mot pour dire que c'est vrai que la MINUSMA, dans un communiqué une quinzaine de jours, je ne sais plus quoi, avait déjà parlé de violation du cessez-le-feu, mais c'est le premier gros coup de canif dans les accords d'Alger. Et ce n'est pas terminé parce que d'après ce que l'on sait, aujourd'hui, Anéfis est sous le contrôle, je disais tout à l'heure, de la plateforme, mais il semble que Veille Directe, ce qui est un oued, que ça combat toujours actuellement encore une fois pour le contrôle de ces territoires-là. Il y a une réunion au ministère à la primature actuellement. J'espère qu'il y aura une accalmie, mais dès que l'accalmie va régner, il va falloir reprendre langue avec les différents acteurs sur le terrain, parce que la tension est très vive.
Alors, vous parliez tout à l'heure de cette annonce de la MINUSMA qui avait constaté une violation du cessez-le-feu. Est-ce que vous pensez que si la MINUSMA avait été plus précise dans cette dénonciation, on aurait pu éviter ces affrontements?
À l'époque, c'était des escarmouches. Ça s'est passé dans un bled où il y a un des groupes armés qui a fait des tirs de sommation. Ce n'était pas une confrontation comme on assiste actuellement. Donc, mais c'était bien d'avoir fait ce communiqué, mais ce n'était pas un gros coup de canif. Aujourd'hui, c'est quand même un très gros coup de canif parce que vous avez une localité qui était occupée par un groupe qui a été envahi par un autre groupe. Donc la tension est vive. Et l'autre groupe, d'après ce qu'on apprend, c'est que l'autre groupe commence à s'apprêter pour revenir combattre à nouveau à Nefis. La conséquence immédiate, c'est qu'à Niamey, aujourd'hui, vous savez qu'il devait avoir
une rencontre
sur le nord du Mali, avec tous les acteurs. Évidemment, il y a une partie qui a dit, mais nous, on claque la porte parce qu'il y a violation du cessez-le-feu.
Alors, comment peut-on parvenir aujourd'hui à ce qui est un apaisement entre ces deux groupes?
Alors, moi, je suis persuadé, je vais vous dire, je vais pas, peut-être que ça ne va pas faire l'unanimité, mais je reste persuadé que si vous voulez apaiser les tensions dans le nord du Mali aujourd'hui, il faut faire deux choses, à mon avis. Tout le monde est d'accord pour une chose, c'est que vous avez des routes de trafic, c'est que vous avez, quoi qu'on fasse, vous avez des trafiquants de drogue, de cocaïne. Lorsque vous avez un Boeing qui atterrit dans le nord du Mali avec une charge utile de 10 tonnes de cocaïne, c'est énormément, c'est important. Il faut faire deux choses. La première chose, c'est de dire, nous allons continuer par négocier, à discuter entre les tribus, entre les communautés, tout ce que vous voulez, mais de l'autre côté, je suis persuadé qu'il faut une force mobile pour pouvoir lutter contre le trafic de drogue. Si vous décidez de lutter contre les routes du trafic, vous avez réglé en partie la question du nord du Mali.
D'accord, alors nous allons du côté de André Bourgeot. André Bourgeot, aujourd'hui, est-ce que ces actes remettent en cause l'accord de paix?
Remettre en cause d'une manière structurelle, je ne dirais pas, mais en tout cas, ça pose un sérieux problème pour les conditions d'application du contenu de l'accord. Mais ce n'est pas nouveau, hein. On l'a vu déjà au moment des réunions du comité de suivi de l'accord, où il y a eu des dissensions assez importantes. Et puis ensuite, se repose le problème de qu'est-ce que ça veut dire des accords inclusifs lorsque tant la plateforme que la coordination refusent de voir siéger d'autres groupes que les leurs. Donc, je dis, mais c'est plus du tout quelque chose d'inclusif, c'est quelque chose d'exclusif, puisque certains groupes ne sont considérés comme malvenus dans ces accords. Donc, vous voyez, ça repose le problème de toutes les ambiguïtés de ces accords. Et ces ambiguïtés, de mon point de vue, résultent du fait que le peuple malien n'est pas du tout consulté. S'il y avait eu une conférence nationale ou même, c'est pas trop tard, un référendum sur les accords d'Alger, peut-être qu'on ne serait pas dans cette situation-là parce qu'il y aurait une dimension civile qui serait partie prenante des conditions d'application de l'accord, ce qui n'est pas le cas puisque c'est quasiment exclusivement des groupes armés qui vont décider de l'avenir du Mali. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas convenable sur le plan de la démocratie et sur le plan de la République malienne.
D'accord. Merci beaucoup, André Bourgeot. Une courte pause et nous nous retrouvons.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de rester avec nous. Notre page Facebook et notre compte Twitter sont là pour vous si vous souhaitez réagir à cette émission. Nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir sur la situation sécuritaire avec ces affrontements entre la plateforme et la coordination des mouvements armés de l'Azawad aux alentours donc de Kidal, précisément à Nefis. Alors nous sommes avec deux invités, Serge Daniel, journaliste et spécialiste des questions terroristes, et André Bourgeot, spécialiste, chercheur spécialiste du Sahel. Alors, cette deuxième partie est consacrée aux actes terroristes dans le pays. Mais avant, cette question adressée à Serge Daniel, est-ce que le comité de suivi de l'accord de paix va se mettre en place et est-ce que c'est la clé donc de tous ces problèmes?
Ce sera un début, à mon avis. Bon, d'après ce qu'on apprend, il y a eu des négociations de couloir. On sait désormais que vous savez que au sein des différents groupes qui ont paraphé et signé l'accord, désormais il y a un groupe qui s'est formé, une espèce de force tampon qui ne pèse pas militairement grand-chose sur le terrain, mais faire la paix, ce n'est pas seulement avec les armes, mais c'est aussi avec les mots, et donc c'est important. Je pense qu'on va arriver à mettre sur pied le comité de l'accord. Nous sommes en vacances actuellement, vous avez vu, les représentants de plusieurs institutions ne sont pas là, mais on sait qu'il y a eu un travail de fond qui a été effectué. Je suis plutôt optimiste. Mmh. Mais quand ça va se faire, c'est-à-dire que quand l'accord, il ne faut pas oublier que c'est l'Algérie qui dirige le comité de l'accord, la commission de suivi, et que ça fait quand même toujours grincer des dents. Vous allez voir ce qui va se passer. À mon avis, au mois de septembre, en principe, on devrait pouvoir avoir le comité. On aurait certes perdu du temps, mais ça va permettre de faire décoller les choses. Le nœud de la chose, le caillou dans la chaussure, ce qui va apparaître comme difficile dès le départ, à mon avis, ce sera le processus du DDR, la démobilisation. Le désarmement et la réinsertion. Le combattant, le rebelle ne dépose pas les armes.
Comme ça,
tant qu'il est possible. J'ai vu ça au Libéria, j'ai vu ça en Sierra Leone, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, ils ont fait les premières élections après la crise avec des rebelles qui avaient quand même une arme dans une main, pas dans les deux, mais dans une main. Il faut la confiance, ça me semble très important. Vous avez suivi les événements de Kidal la semaine dernière. Il faut faire parler les populations civiles. Les civils de Kidal ont manifesté, c'était pas une méga manifestation, mais il y avait quand même manifestation de quelques centaines de personnes. Pourquoi? Parce qu'elles estiment, ces populations estiment que les groupes rebelles utilisaient à des fins personnelles l'aide alimentaire internationale. Donc, il faut inclure les populations également, à mon avis, dans ce processus-là.
Merci beaucoup Serge Daniel. Alors nous allons entamer cette deuxième partie consacrée aux actes terroristes avec André Bourgeau. André Bourgeau, vous avez assisté avec nous, même décrypté ici en studio avec nous ces questions-là durant ces deux semaines écoulées au Mali qui ont donc vu plusieurs actes perpétrés dans le pays dont le plus spectaculaire s'est déroulé à Sévaré. Alors dites-nous aujourd'hui si ces actes ont une relation quelconque avec ces affrontements entre ces deux groupes.
Si vous parlez de relations, je ne dirais pas qu'il y a des relations de type organique, de type structurel, parce que chaque mouvement a son autonomie parfaitement marquée. Mais j'observe que ces groupes utilisent des situations qui sont celles d'un retour quasiment généralisé de l'insécurité. L'insécurité, autrefois, se caractérisait, s'appliquait essentiellement dans le 71. Maintenant, c'est sur l'ensemble du territoire malien. Il y a eu des actes terroristes qui ont été commis à l'espace de 15 jours ou 3 semaines, d'une manière très rapprochée et symboliquement aussi très significative. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une sorte de maillage émanant de ces groupes salafistes djihadistes sur l'ensemble du territoire malien? Quand je dis maillage, ça ne veut pas pour autant dire que leur présence va se pérenniser, mais ça veut dire qu'ils ont capacité à intervenir quand ils veulent, là où ils veulent, et plus particulièrement maintenant aux frontières, à la frontière ivoirienne, à la frontière mauritanienne, à la frontière burkinabé, et puis au centre du Mali. Sévaré est, de mon point de vue, quelque chose de très symbolique. Sévaré regroupe beaucoup des militaires, les forces armées maliennes, Barkhane, l'opération militaire française, la MINUSMA, etc. C'est quand même une audace très grande que de s'attaquer à un endroit comme ça. Et puis, c'est le centre. Donc, on peut penser qu'à partir de ce centre, il y a potentiellement un risque de diffusion sur l'ensemble du territoire. D'autant que, encore une fois, le 731 n'est pas du tout sécurisé. Al-Saladin demeure très influent. Il a des capacités de nuisance notables.
D'accord.
Donc, je pense que la situation s'est sensiblement aggravée.
D'accord. Merci beaucoup, André Bourgeot. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, deux semaines de violence ponctuées par la nomination de Mokhtar Belmokhtar à la tête donc d'Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest. Serge Daniel, quel crédit peut-on accorder à ces différents actes et aujourd'hui, quel poids donner à cette nomination?
Alors, il y a deux choses. D'abord, en termes de grille de lecture sur les attaques à Sévaré, je reviens de Sévaré. J'ai été à Sévaré. On ne peut pas parler de tentative d'enlèvement. Il n'y a pas eu de tentative d'enlèvement d'après ce que j'ai vu. Vous avez un monsieur rapidement qui débarque devant un domicile, parce que ce n'était plus un hôtel, c'était occupé uniquement par une société qui travaille avec la MINUSMA. Il voit un bus, il tire sur le chauffeur, 7 balles, et il balance une grenade dans un véhicule. Le véhicule prend feu, vous avez deux personnes qui meurent calcinées. À l'intérieur, coup de feu, mais deux autres personnes, deux autres expatriés, des militaires, etc. Alors cet acte-là, c'est un acte, si vous voulez, signé d'un fidèle d'Amadou Koufa. Je pense que c'est un acte signé de ce monsieur. Pourquoi il fait ça? C'est très symbolique parce que vous avez des milliers de personnes à Sévaré. S'il se dirige vers le domicile d'expatriés, c'est que cet expatrié, il veut s'attaquer à des expatriés. On sait maintenant avec précision qu'Amadou Koufa, dans un communiqué publié il y a, dans un document publié il y a deux mois, avait appelé à attaquer les forces étrangères. Voilà le premier symbole. Le deuxième symbole, c'est quand même ici à Bamako. Bamako intramuros, où vous avez des gens à moto qui vont tirer sur les policiers. Là aussi, c'est dans un autogare, il y a du monde, et c'est le symbole, c'est la police, c'est-à-dire c'est le fond de l'erreur. L'autre chose dont on n'a pas parlé, je voulais rapidement parler de cela, c'est l'imam qui a été assassiné près de...
Non, pas là.
Lorsque son neveu m'appelait pour me donner l'information, je voyais ce monsieur trembler, mais je lui dis, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi? Et il explique lui-même, c'est-à-dire que lui, c'est un imam, c'est un musulman modéré, mais un musulman tout simplement, hein, alors que les autres veulent installer un radicalisme dans cette région-là. Donc, il faut décrire ces différentes scènes pour montrer que c'est vrai. Le dénominateur commun, c'est que ce sont des gens qui utilisent un vernis qui est la religion, mais qui sont des voyous, des assassins. Il n'y a pas d'autre mot, à mon avis. Maintenant, pour parler de Belmokhtar, je ne suis pas d'accord avec tout ce que j'ai entendu pendant cette période-là. Belmokhtar n'a jamais été adoubé par Al-Qaïda centrale. Ce sont des éléments de Al-Murabitoun, donc des proches de Belmokhtar, qui disent désormais qu'il est le patron d'Al-Qaïda au Maghreb
en
Afrique de l'Ouest. Il y a un communiqué, il y a environ deux heures, un communiqué de Al-Murabitoun pour dire que non, ils n'ont jamais parlé d'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, ils ne savent même pas si Belmokhtar vit toujours. Je pense que là, c'est plutôt le résultat de querelles internes dans le groupe. Vous savez que Al-Murabitoun fonctionne aujourd'hui en mode Y. D'un côté, vous avez les signataires du Par le Sang, qui est le groupe de Belmokhtar, qui est toujours proche d'Al-Qaïda. Et de l'autre côté, vous avez le Moujao, qui est plutôt proche de l'État islamique, qui a demandé aussi à être adoubé par l'État islamique. Donc, le Moujao, c'est quand même le mouvement pour l'unicité, le djihad, en Afrique de l'Ouest. Donc, ce sont des concurrences internes. On ne sait pas si Belmokhtar vit toujours. S'il vivait par hasard, il doit être terré quelque part en Libye, parce que vous avez des appareils américains qui sont en train de le chercher.
Merci beaucoup, Serge Daniel. Alors, André Bougeot, une réaction peut-être sur cette nomination de Belmokhtar ou cette annonce de la nomination de Belmokhtar?
Il est difficile de vérifier ces propos, mais ça, en tout cas, c'est une hypothèse qui n'est pas écartée. Hein. La création de Marabitoun est déjà ancienne, elle date de plusieurs mois. Et donc, ils ont tendance à dire que c'est peut-être possible. Et je voudrais attirer l'attention aussi sur la création récente du Front de Libération du Nassina, qui a été créé début 2015. Et M. Koufa est quand même quelqu'un qui est très proche de l'Ansar al-Din. Donc vous avez l'Ansar al-Din, un salafia qui est à dominante Touareg, et vous aviez le Front de Libération du Nassina dont l'objectif est de restaurer l'empire du Nassina théocratique. Les relations entre les Peuls et les Touaregs n'étaient pas particulièrement bonnes. Or là, au nom de l'islam, qui est une religion quand même universaliste, on se rend compte qu'il y a des alliances extrêmement importantes entre ces deux groupes. Et ces deux groupes aussi ont quelque chose de rapport à la guerre et aux armes qui est loin d'être négligeable. Donc j'aurais tendance à dire, soyons très vigilants sur l'évolution des relations entre Ansar Eddine Salafia et puis le Front de Libération du Massina. Et par ailleurs, à ma connaissance, on parle plus beaucoup d'ACMI. ACMI aurait revendiqué l'attaque qui s'est passée à la frontière mauritanienne. Quid des relations entre ACMI et El Marabitoun? J'ai aucun élément d'information qui me permet d'envisager une petite analyse.
Merci beaucoup André Bourgeot. Alors Serge Daniel, nous allons revenir sur cette situation à Sévaré, où vous avez séjourné quelques jours. Ce rythme n'est pas le vôtre, peut-être dû au voyage. Alors aujourd'hui, est-ce que cette attaque a mis à nu les insuffisances de coordination entre l'armée malienne et la MINUSMA?
Ça c'est évident. D'abord à Sévaré, il n'y a pas de camp militaire de la MINUSMA. Il n'y a pas un grand camp militaire de la MINUSMA. Il n'y a pas à Sévaré 50 éléments de la MINUSMA, ce n'est pas vrai. Il y a, j'ai vu sur place le responsable chargé des droits de l'homme, mais il n'y a pas, vous ne voyez pas dans la ville, des patrouilles communes entre MINUSMA, il n'y a même pas de force française, je n'ai pas vu de force française à Sévaré. Le problème, il est général, et je suis persuadé, le médicament des islamistes pour moi, ce sont les forces françaises. Nous avons eu au départ l'opération Serval. Là, les Français avaient la politique de leur moyens dans le nord du Mali. Ils contrôlaient tout, ils savaient tout, mais malheureusement, ils se sont déployés dans le Sahel, c'est devenu l'opération Barkhane, mais sur l'opération Barkhane, la France n'a pas les moyens de sa politique. Les autres pays doivent intervenir pour l'aider. Donc à partir du moment où ça devient Barkhane et que c'est dans tout le Sahel, vous avez vu même, ils ont déplacé leur centre de commandement, et le porte-parole qui parlait beaucoup avec la presse ici est désormais à N'Djamena, donc ça fait que les gens sont handicapés. La mission de l'ONU au Mali n'a pas les moyens d'assurer la propre sécurité de ses agents, et elle ne peut donc pas assurer la sécurité des Maliens. Donc c'est ça le véritable problème. C'est une mission qui a un mandat qui n'est pas approprié, ça je l'ai toujours dit, mais au fur et à mesure où on évolue, il faut à mon avis qu'on accepte qu'il y ait par exemple une force d'intervention rapide international dans le nord du Mali qui demeure le nœud du problème. Vous avez les reportages que vous voyez vous montrent quoi? Vous avez des gens qui prennent des armes en Libye, des explosifs pour les ramener dans le nord du Mali. Donc ça manque. Je pense que l'armée malienne est en patrouille actuellement. J'ai assisté à une patrouille de l'armée malienne dans toute la région, dans une partie de Mopti. Ça, c'était très impressionnant de les voir. Mais il faut de l'aérien, il faut du renseignement. Or, l'armée malienne, disons les choses, n'a pas les moyens de sa politique aujourd'hui. Il manque donc, pour répondre à votre question, une coordination entre les forces nationales et les forces internationales sur le terrain.
Alors, André Bourgeot, est-ce que c'est votre avis?
Bon, l'absence de coordination, oui, je souscris tout à fait à ces propos et à ces types d'analyse, mais la question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a pas justement de coordination. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une opération militaire française Barkhane, qui ne collabore pas au niveau de la coordination avec les FAMA, et qui ne collabore pas, puisqu'il n'y a pas de coordination, avec la MINUSMA. Donc on se dit, ces trois groupes militaires autonomes les uns des autres, donc à quoi ça sert? Donc, c'est un petit peu surpris qu'il n'y ait pas une instance qui coordonne les possibilités d'intervention de ces trois groupes militaires. Mais le problème de fond demeure le suivant, c'est que c'est certainement pas avec des mesures exclusivement sécuritaires et militaires que la paix va revenir au Mali, pas simplement au Saint-Antonio, mais sur l'ensemble du territoire malien. Encore une fois, s'il n'y a pas un grand mouvement de soutien et de lutte, quand je dis de lutte, c'est aussi des formes de lutte pacifistes, pas nécessairement passées par les armes. Donc s'il n'y a pas un grand mouvement populaire qui dit maintenant, ça suffit, l'avenir du Mali est en jeu, donc c'est notre avenir, nous, Maliens, qui est en jeu, je ne pense pas que, même si on met encore 1000 militaires de plus, que le problème soit résolu. On l'a vu historiquement parlant, partout où il y a intervention de militaires, les problèmes politiques ne sont pas résolus. Et puis par ailleurs, la situation est extrêmement complexe, parce que tout se mélange. Vous avez les forces djihadistes, vous avez les règlements de compte, vous avez les problèmes de relations pour accéder aux ressources naturelles, plus particulièrement au point d'eau, et puis tout le problème des rapports sociaux, cette fois-ci, à l'intérieur des sociétés touareg, et ça revient à la nature des relations entre le Gatia, puisque c'est du Gatia qu'il s'agit surtout, et du MNLA, c'est un problème de rapports sociaux dans la structure traditionnelle politique de ce groupement touareg. Le Gatia, c'est les anciens tribus de l'ancienne aristocratie, incarnée aussi par les différences au sein du mouvement national de libération, de l'Azawad. Donc c'est aussi des antagonismes qui réapparaissent. Le Gatia, certains éléments du Gatia sont arrivés au pouvoir à Kidal par la voie de la démocratie élective. Or, on voit bien aussi que par l'attitude du mouvement de libération de l'Azawad, ils sont arrivés au pouvoir pas par la démocratie élective, par les armes. Donc, tant qu'il n'y aura pas de concessions qui seront faites là-dessus, tant qu'il n'y aura pas possibilité de passer par la démocratie élective et que le pouvoir soit conféré par le peuple, je pense que ce sera extrêmement difficile de sortir de cette situation. Enfin, j'en terminerai sur le fait qu'il n'y a toujours pas de cantonnement. Et là, il va y avoir des enjeux terribles sur le problème du cantonnement. Donc on est loin d'être sorti de, excusez l'expression, de l'auberge. Il y a aussi le problème des DDR. Donc vous voyez, c'est quelque chose de gigantesque et de terriblement complexe et difficile.
Merci beaucoup André Bourgeau. Alors nous allons observer quelques secondes de pause et nous reprendrons le cours de cette émission pour la dernière partie.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani, c'est aussi notre site web www.studiotamani.org. Le Grand Dialogue réfléchit aujourd'hui sur la situation sécuritaire avec ces affrontements entre la plateforme et la coordination des mouvements armés de l'Azawad. Alors, pour terminer avec le scénario donc, de Sévaré, nous allons poser cette question à Serge Daniel. Alors, Serge Daniel, comment peut-on qualifier aujourd'hui la capacité opérationnelle de l'armée malienne, des forces armées maliennes, gendarmerie et armée confondues?
Alors, je suis cette armée depuis 19 ans que je suis là. Il y a 19 ans, les militaires qu'on voyait, on ne les voit plus aujourd'hui. Ils sont plutôt de bédonnants, à la retraite quasiment, etc. Ce qui m'a frappé, j'ai assisté à un départ, à une organisation, à un départ de troupes sur le terrain à Sévaré, c'est qu'il y a beaucoup de recrutement de jeunes. Ça, c'est
qualifiés.
Des jeunes qualifiés, ils sont formés sur le terrain, ça c'est évident. Et j'ai vu les instructeurs, enfin avant leur départ, insister beaucoup sur le droit humanitaire. Mais je vais vous dire, avoir une armée, ce n'est pas avoir des armes. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le gouvernement malien a dépensé des milliards de francs CFA pour acheter de l'armement ou des équipements militaires il n'y a pas longtemps. Je pense qu'au niveau, le problème c'est au niveau du mental de ces jeunes-là. Au niveau du mental de ces jeunes-là, parce que pendant des années, pendant au moins une dizaine d'années, on recrutait pour faire plaisir aux gens. Je me souviens d'un président malien qui a reçu un jour une communauté, et à la fin, il disait aux membres de la communauté, écoutez, donc donnez-moi 10 noms, je vais les mettre dans l'armée de terre. Vous allez me donner 5 autres noms, je vais les mettre dans la gendarmerie. Alors, on a voulu fuir le chômage comme si c'était un moyen de trouver du travail aux gens. Il faut une armée de métier. Je pense que les choses sont en train de bouger lentement, vous avez vu. Le chef d'état-major, quand j'étais à Sévaré, le chef d'état-major général des armées s'est rendu dans le Gourma Raous. Et dans le Gourma Raous, sans appui de la MINUSMA ni de l'opération Barkhane. Donc l'idée, c'est de rendre autonomes les troupes sur des centaines de kilomètres. Elle se réveille, mais elle se réveille doucement parce qu'elle a été à un moment traumatisée. En revanche, il y a quand même aussi les terrains. Vous avez vu ce que les Bérets Rouges ont fait à la frontière ivoirienne. Ils ont nettoyer le coin, parce que là ce n'est pas le désert, là c'est quand même
la forêt,
ils sont habitués. Donc il y a aussi une question de terrain. Les méharistes, vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines, quelques mois à Léré. Lorsque les rebelles ont attaqué Léré, ils n'ont pas pu prendre Léré, parce que Léré c'est une zone où vous avez des méharistes qui sont
l'unité
formés.
L'unité
méhariste qui sait ce que c'est. Donc il y a un problème de formation, c'est une armée qui à mon avis se réveille doucement, lentement, mais qui est en période à mon avis de rodage. Et or le problème c'est tout de suite d'être opérationnel pour faire face à tous ces défis. Je voulais ajouter rapidement une autre chose qui me paraît importante dans le cas du règlement du conflit du nord du Mali, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des groupes armés, mais vous avez dans ces communautés, dans ces différentes tribus, vous avez des représentants de ce que je peux appeler l'aile intellectuelle. Vous avez des cadres de ces régions. Peut-être que faut-il aussi également les associer au règlement de la crise.
Alors nous avons vu que à Sévaré, lors de cette attaque, il y a eu 4 militaires qui ont perdu la vie. Est-ce que c'est des militaires qui ont perdu la vu, c'était des vies de trop.
C'était des militaires maliens, vous voulez dire. Oui. Il faut des experts en balistique pour savoir comment ils sont morts. Parce que quand vous voyez comment l'armée malienne est intervenue, avec de grands moyens, moi ça m'a rappelé à l'époque, à Gao, j'y étais, tout juste après la libération, les djihadistes, si vous vous souvenez.
De la mairie.
Pas de la mairie, du commissariat. Vous savez, ils ont pris le commissariat, donc l'armée malienne a été obligée d'intervenir, mais de loin, si vous voulez. Si vous voyez les impacts de balles à Sévaré, ça m'a rappelé tout de suite ce qui s'est passé à, comment ça s'appelle, à Gao. Donc, quatre morts de trop, c'est évident. Mais là encore, il faut, à mon avis, pouvoir les réorganiser. Ce que je ne crois pas est normal, c'est de voir que l'armée malienne, par exemple, n'a pas 5 hélicoptères de combat. C'est-à-dire que si quelque chose se passe aujourd'hui à Sikasso, il faut qu'ils puissent avoir un hélicoptère pour aller là-bas, quand même.
Alors, on parlait de l'achat de 6 avions au Brésil.
Je suis au courant.
Tout ça n'est pas la solution.
Pas seulement ça, la solution. Mmh. Mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement au Brésil qu'on achète. On achète ailleurs. Donc, ça va poser peut-être un problème. Mmh. Il faut que l'armée malienne puisse avoir les moyens, mais les moyens adéquats qu'il faut pour faire face à la situation. Les militaires que j'ai vus sont des militaires décidés. Ils sont en train de se réveiller, comme je vous le disais tout à l'heure, mais ils ne sont pas encore totalement debout, disons les choses clairement.
Alors, André Bojo, spécialiste du Sahel, vous avez une vision beaucoup plus large, donc en dehors du Mali, sur cette question de la reconstruction de l'armée. Qu'est-ce que le Mali doit faire pour remettre son armée d'aplomb?
Moi, je suis anthropologue, je ne suis pas expert militaire. Il faut poser la question aux militaires qui, eux, ont une expertise beaucoup plus grande que moi. Mais je voudrais revenir sur le problème de la réconciliation, parce que ça me paraît un problème fondamental. La question est la suivante. Est-ce qu'on peut engager des processus de réconciliation uniquement à travers une méthode et une problématique institutionnelle, sans demander aux acteurs, parce que les acteurs jouent un rôle important, sans que les acteurs fassent un minimum d'autocritique sur leur passé? Il serait tout à fait honorable et courageux que ces groupes reconnaissent les erreurs qui ont été commises. Et à partir du moment où il y aurait reconnaissance des erreurs de commises, ça créerait une nouvelle situation politique et militaire qui pourrait aller dans le sens de la réconciliation, et ça satisferait aussi les attentes du peuple malien. Donc, tant qu'il n'y aura pas autocritique, c'est peut-être un peu trop fort, mais simplement reconnaissance des erreurs, reconnaître qu'on a commis des erreurs, c'est un signe de courage. Et ça ne peut qu'engager une dynamique, effectivement, de reconnaissance de l'autre, au sens anthropologique du terme, donc de réconciliation. Et là-dedans, il y a aussi toute cette dimension culturelle. La dimension culturelle peut jouer un rôle politique dans le multiculturalisme qui est bien connu. Je pense que c'est quelque chose d'important.
Merci beaucoup, André Bourgeois. Alors, Serge Daniel, ces questions d'affrontement, c'est sur deux fronts, Anéfis et peut-être Tassik. Est-ce que vous avez des informations fraîches par rapport à la zone de Tassik?
Vous voulez parler de Tassik, et Djiret. La situation est vive là-bas, mais bon, actuellement, il est 18h52, il fait nuit, on ne combat pas la nuit. Et dans le désert, il y a une pratique, c'est comme s'il y a une espèce de gentleman agreement. Dès qu'il commence à faire nuit, les deux parties arrêtent de combattre, comme si c'était un gentleman agreement. Donc il faut attendre demain pour savoir ce qui va se passer de ce côté-là, mais pour voir également ce qui va se passer du côté d'Anéfis. Parce que ceux qui ont perdu Anéfis aujourd'hui ne vont pas...
vont revenir à la charge.
Exactement. En langue tamashèque, Anéfis, vous savez ce que c'est, ça veut dire le souffle du forgeron. Donc bon, il faut savoir si demain, ça ne va pas encore souffler dedans. Est-ce que vous voyez? Donc la tension est vive, à mon avis, de ce côté. On attend un communiqué du gouvernement, ou en fait, on attend de la part du gouvernement une décision qui doit être prise d'après ce que j'ai appris.
Le gouvernement qui a d'ailleurs convoqué une réunion d'urgence.
Exactement. Le ministère de la MINUSMA, la mission de l'ONU, a envoyé des gens là-bas sur place. J'espère que ça va calmer les esprits. Je ne sais pas si ça arrivera à calmer les esprits, mais il le faut forcément.
Alors, nous assistons à ces affrontements pendant que les organisations non gouvernementales estiment que la situation humanitaire est désastreuse. Aujourd'hui, quelles solutions, quelle aide peut-on apporter à ces populations qui sont laissées pour compte, André Bourgeot?
La première chose à faire, mais qui est réalisable, c'est le retour de l'État à travers ses appareils dans le septentrion, qui a été quand même en situation de déshérence étatique. Donc, le problème du retour de l'État ne s'exerce pas essentiellement ou exclusivement par la présence des chamans. Il faut que les institutions qui représentent l'État recommencent à fonctionner. Je pense à l'école, je pense aux hôpitaux, je pense à tout cela. Mais est-ce que c'est possible dans une situation où il y a une aggravation de la sécurité? Donc vous voyez, on a l'impression que l'on tourne un petit peu en rond. Que faire face à ça s'il n'y a pas des décisions, une volonté politique de la part des autorités maliennes de retour de l'État dans l'ensemble dans certains endroits, dans certains lieux du Châtelet-Tillon.
Alors dans l'urgence, que faut-il faire, André Bourgeot, pour apaiser les souffrances des populations?
Alors, bien sûr, le rôle des ONG est loin d'être négligeable, mais les ONG, c'est pas l'État. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste d'une manière peut-être un peu lourde, un peu pesante, sur il faut que les institutions de l'État, et plus particulièrement l'école et la santé, je pense que ces deux piliers-là doivent être présents d'une manière visible, d'une manière transparente, dans les grandes agglomérations, mais pas uniquement, aussi dans les petits villages. D'une part. D'autre part, il ne faut pas non plus minimiser que pratiquement, à ma connaissance, tous les gros villages maliens sont organisés en quartiers. Et donc, il y a une infrastructure, j'allais dire, une infrastructure sociale et sociologique qui existe. Est-ce qu'il ne faudrait pas la réactiver, la réanimer? Ça peut se faire aussi sans que l'État le demande, parce qu'on a vu avec la hausse qui s'était passée avec les groupes de jeunes, les patrouilleurs, les nous pas bouger, les patriotes, qui avaient pris en charge justement les possibilités de gestion, de créer un peu un rempart à l'encontre des dérives du Nizao. Donc j'aurais tendance à dire que c'est s'il y a une collaboration institutionnelle ou non entre la société civile, capacité à prendre des initiatives et renforcée par des initiatives politiques émanant de l'État, mais concrètement, c'est-à-dire que les députés, les ministres devraient aussi faire des tournées, comme on dit, sur l'ensemble du territoire. Ça rassurerait le peuple malien qui verrait que, en définitive, oui, on s'occupe un peu de nous.
D'accord. Merci beaucoup, André Bourgeot. Vous êtes dans la politique. Nous restons dans cette vie politique en faisant référence aux annonces de l'opposition politique malienne. Le gouvernement demande l'union sacrée pour la gestion de cette crise, de cette insécurité au Mali. Est-ce que vous comprenez les attaques, si on peut qualifier ça comme ça, de l'opposition vis-à-vis du gouvernement, Serge Daniel?
L'opposition est dans son rôle de critiquer, de dire ce qui n'est pas, d'élaborer une politique. Mais je vais vous dire, franchement, si vous prenez la situation actuelle, on a connu au Mali à un moment, c'était à l'époque du président Mamadou Toumani Touré, il y avait ce qu'on appelait le gouvernement de consensus. Je pense que ce pays n'a jamais eu autant besoin, comme aujourd'hui, d'un gouvernement où on aurait les fils de tout le pays, c'est-à-dire les oppositions, les centristes. Bon, les centristes, ça n'existe pas. Les centristes sont à gauche ou à droite selon les
émissions.
Voilà. Mais il faut, à mon avis, moi je ne verrais pas d'un mauvais œil toutes les sensibilités au sein du même gouvernement, parce que la tâche est la même. Ce n'est pas parce que, je vais vous le dire, un autre aujourd'hui à la place du président Ibeka, peut-être qu'il aura peut-être une manière différente de gouverner, mais les problèmes sont les mêmes. Lorsque, par exemple, vous demandez à un ministre d'aller en tournée, c'est arrivé, vous vous souvenez, le ministre de l'administration territoriale allait à Gao, mais lorsque le ministre de la développement rural a voulu aller vers Menaka, il y a eu tout de suite un attentat. Donc le problème sécuritaire est quand même très important. De l'autre côté, vous avez les populations qui se sentent abandonnées, parce qu'on va les attaquer, et il n'y a personne pour réagir. 10 personnes tuées il n'y a pas longtemps dans le Gouamaraus, par exemple. Ce sont des civils qui ont été tués, tout simplement parce que, et c'est en représailles à l'arrestation ou l'interpellation d'un maire qui est un citoyen, un ancien élu,
député,
qu'on a le droit d'interpeller. Est-ce que vous voyez, il faut pouvoir rassurer les populations, et c'est encore très 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 loin.
Merci beaucoup, Serge Daniel, malgré cette fatigue, d'avoir accepté de venir discuter de la question sécuritaire sécurité dans ce studio. Merci à vous. Merci également à André Bourgeot qui était de l'autre côté de la ligne depuis la France. André Bourgeot, spécialiste des questions du Sahel, et Serge Daniel, spécialiste, journaliste spécialiste des questions de terrorisme. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Peding Diarra était à la mise en onde. Mamadou Ouattara à la régie vidéo. Ousmane Diadié Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Merci à vous et bonsoir.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.